On connaît le programme de Gérald Darmanin qui arrive cette nuit. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer va passer 3 jours sur le territoire. Que faut-il attendre de cette visite ? Harold Martin, signataire de l'accord de Nouméa, sera notre invité dans un instant. Réfléchir à l'harmonisation des normes en matière de construction, de santé ou encore d'éducation. La semaine internationale de la normalisation s'est ouverte ce matin à la CPS. Le Secours catholique inaugure sa nouvelle boutique solidaire. Elle est installée dans le nouveau bâtiment au pied de la cathédrale. En métropole, Emmanuel Macron recadre Elisabeth Borne après les propos qu'elle a tenus sur le Rassemblement national. L'affaire suscite déjà de nombreux commentaires. Et puis en tennis, retour gagnant pour Gaël Monfils à Roland-Garros. Le Français s'est qualifié pour le deuxième tour. La surprise du jour, c'est l'élimination dès son premier match du numéro 2 mondial, le Russe Medvedev. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le programme officiel de la visite de Gérald Darmanin a donc été dévoilé hier soir. Pas de surprise par rapport à ce que nous vous avions annoncé ces derniers jours. C'est demain matin que le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer débutera sa visite de 3 jours. Déplacement partagé entre avenir institutionnel et enjeux environnementaux, Nicolas Legrand.
Oui, son déplacement débutera donc demain à 9h au commissariat par la restitution du bilan de l'accord de Nouméa en présence des élus indépendantistes et non indépendantistes. Et puis c'est à 15h qu'il animera ensuite une réunion relative à la restitution de l'audit de décolonisation avec là aussi les délégations d'élus. Entre-temps, vers midi et demi, Gérald Darmanin conclura le séminaire de la Fédération des entreprises des Outre-mer. C'est sur le thème de la transition écologique et ce sera du côté de la CCI. Vendredi, Gérald Darmanin retrouvera la délégation indépendantiste à partir de 9h au commissariat. Et à midi, ce sera au tour de la délégation non indépendantiste de s'entretenir avec le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. L'après-midi, quant à elle, sera consacrée à une séquence à l'université à Nouville, avec une visite du laboratoire Sigma, un échange avec les étudiants sur l'enseignement supérieur en Nouvelle-Calédonie et la présentation du court-métrage Nations of Water sur le thème du changement climatique et des déplacements des populations dans le Pacifique. Enfin, à 18h, vendredi, Gérald Darmanin participera à la réunion du groupe de travail sur le nickel. Et puis enfin, pour le dernier jour de sa visite, Gérald Darmanin se rendra à Ouvéa et à l'île des Pins. Le matin, il se rendra d'abord à la mairie d'Ouvéa où il inaugurera ses locaux mutualisés. Une visite également tournée vers l'écologie puisque des temps d'échange sur l'impact du changement climatique sont prévus avec les acteurs locaux. Puis il se rendra au pont de Mouly pour une présentation des modifications du trait de côte et l'accompagnement de l'AFD sur toutes ces questions. L'après-midi, je le disais, Gérald Darmanin s'envolera pour l'île des Pins pour des échanges sur la protection de l'environnement et de la biodiversité, puis un échange avec les gendarmes de la brigade de l'île des Pins. Et c'est donc samedi soir que le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer devrait quitter le territoire.
Voilà donc pour le programme de Gérald Darmanin. Que faut-il attendre cette visite ? Question que nous poserons dans un instant à Harold Martin, signataire de l'accord de Nouméa, qui sera l'invité de ce journal.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure de notre rendez-vous SMS avec la question du jour. Pensez-vous que la troisième visite de Gérald Darmanin va permettre des avancées dans les discussions sur l'avenir institutionnel ? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. La réponse à notre question d'hier, 92% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que la maire de Poum a raison de ne pas prendre de mesures de restriction de baignade après l'attaque mortelle de requins qui a eu lieu dimanche. Ils ne sont que 8% à être d'un avis contraire. Revenons donc sur la visite que Gérald Darmanin entame demain en Nouvelle-Calédonie. Elisabeth Noir, je le disais il y a un instant, nous recevons Harold Martin, le signataire de l'accord de Nouméa, pour évoquer les attentes autour de cette visite.
Harold Martin, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes effectivement, Jean-François le rappelait, signataire de l'accord de Nouméa, donc votre éclairage nous intéresse à la veille de cette visite du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Une visite qui a été précédée par un certain nombre de déclarations et de prises de position, notamment de la part des indépendantistes. On a entendu Rocomiton, Gilbert Thuénon. On a vu le communiqué de la commission exécutive de l'UC. Tous, ils disent qu'ils ont besoin de temps et qu'il n'est pas question pour eux de participer à des discussions trilatérales, même à l'occasion de la venue de Gérald Darmanin. Est-ce que, selon vous, les discussions sur l'avenir peuvent avoir lieu sans eux? Et comment, qu'est-ce que vous pensez de leur attitude?
Ouais, je vais commencer à vous répondre sur l'attitude, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent, vous l'avez dit. Mais, par exemple, Gilbert Thuyénon, qu'on a vu à la télévision il n'y a pas longtemps, qui est dans le déni complet, qui nous parle de l'indépendance en 2025. Vous avez Daniel Goa, qui nous fait ses déclarations fracassantes. Alors c'est intéressant parce que, au moins ça permet de savoir ce que pense la base de l'UC, les vieux grognards de l'UC autour de Goa. Bon, puis en plus, c'est pas excessif puisque le tribunal nous dit « arrête la voir ». Bon, très bien, ça fixe le cadre. Donc ils parlent, mais tous ces gens-là, ils n'étaient pas à l'accord de Nouméa. Ils n'y étaient pas. Donc, ils n'ont pas vécu tout ça. Par contre, Ouamitant, il y était.
Voilà, il y a Ouamitant qui lui aussi s'est exprimé. Lui, il est signataire de l'accord.
Hein. Il est signataire. Et donc, quand il est venu chez vous, mais c'est monstrueux de mensonge. Alors, il nous dit, il s'en rappelle comme si c'était hier. Mais c'est monstrueux de mensonge. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Ben, ça veut dire que ils ont signé un accord, ils savent très bien ce qu'ils ont signé, ils ont peut-être pas bien raconté à Goa, c'est possible. À chaque fois que j'ai vu Goa au comité des signataires, il a jamais pris la parole, il a jamais rien dit. Et mon ami, il était pas bien dans le coup. Quant à Gilbert, mon ami Gilbert, non plus d'ailleurs. Bon, mais Ouamitant, il sait très bien de quoi il s'agit et c'est lui qui parle. À chaque fois qui parlait au comité des signataires. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben ça veut dire qu'ils sont dans le déni parce qu'ils ont toujours pas décidé de dire la vérité à leur base, à leurs électeurs. La vérité, c'est que ici, désormais, c'est la France, et puis ça devient la loi. On a voté trois fois. La loi s'impose à tout le monde, y compris d'ailleurs à l'État, qui ne va pas revenir sur les principes de la République, sur les engagements internationaux. Et puis notre vote, je le redis, il faut le dire un milliard de fois, incontestable, incontesté, reconnu par la communauté internationale. Voilà, la messe, elle est dite. Comme disait M. Ouamitant, la baisse. Ouais. Mais bon, voilà, donc c'est ça le sens. Alors pourquoi il demande toujours du temps, quand même, depuis le dernier référendum, 17 mois. Le premier référendum, déjà qu'ils avaient perdu, donc ils connaissaient bien le résultat des courses en finale, c'était en 2018. Mais ils n'auront jamais assez de temps, mais jamais, parce qu'il faut dire la vérité, elle est insupportable à dire la vérité. Évidemment, ils ont commencé à raconter que l'indépendance était inéluctable. Le mot inéluctable, c'est notre ami préfet de la République, vous savez, parce qu'il paraît qu'il ne faut plus dire son nom, je le dis trop, Krisnart. C'est Krisnart qui a inventé ce mot.
Votre ami Alain Krisnart.
Voilà, inéluctable, monde... c'est lui qui a inventé. Alors, il nous répète ça tout le temps. Et donc c'est comme ça qu'ils sont arrivés top 82, c'était l'indépendance, c'était inéluctable. Après ils ont refait le coup en 83, 84, c'était les tops, vous savez, ils marquaient dans les rues, ils marquaient sur la route.
Maintenant c'est 2025 à la question.
Ouais, ils n'ont jamais cessé. Et le problème c'est qu'il faut qu'ils se jettent à l'eau, voilà, pour expliquer à leur troupe que c'est fini l'indépendance, c'est fini, il n'y a plus d'indépendance, terminé.
Alors il y a un instant vous parliez des mensonges de Ouamitant, signataire de l'accord de Nouméa, sais qu'il y a l'un des éléments qui vous a beaucoup agacé, c'est quand sa position sur le corps électoral, donc là pour l'instant ils en sont toujours, ils refusent de parler du corps électoral et du dégel du corps électoral, et vous n'êtes pas du tout d'accord avec l'interprétation que fait Ouamitant.
Mais oui, alors moi je vais vous raconter la vérité, j'ai une preuve, vous savez, parce que sinon on peut dire à menteur, menteur et demi, hein, voilà. J'ai une preuve, c'est très simple. Quand on se réunit tous au Saria, en présence des deux préfets socialistes, Lataste et puis Krisnart, et le commissaire Bure, qui était un type très bien, pour qui j'ai toujours beaucoup d'estime, quand on se réunit pour signer, parce que ça y est, on a fini, les indépendantistes ont réuni leurs troupes, pas Ouamitant, c'est Paul Néotine hein, qui a pris l'engagement, qui a expliqué aux troupes qu'il fallait signer. Voilà. Quand on se retrouve au Saria, voilà, on s'assoit tous, tranquille, on allait signer. Et Jacques Lafleur dit donnez-moi le papier, je vais tout relire. Et donc, pendant une heure et demie, il lit l'accord de Nouméa. Une heure et demie, ça dure. Il n'y en a pas un qui parle autour de la table. Silence, on aurait entendu les mouches voler. Voilà. Et à la fin, quand il est terminé, il prend le document, il le jette sur la table. Et puis il dit à Krisnart, vos entourloupes là, jamais. Et il s'en va. Et la délégation du Rassemblement s'en va.
Ça, c'est pendant la négociation des accords de Nouméa, donc 98.
C'était la veille de la signature, ça c'était la veille. Donc tout le monde s'en va. Et moi je dis, c'est pas possible, il faut bien faire quelque chose, puisque le lendemain, c'était le dernier jour. C'était le dernier des derniers, on ne pouvait pas tirer plus, voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je reste discuter avec les indépendantistes au Saria, et puis Krisnart et consorts, ils sont très abattus, les indépendantistes, parce qu'ils voulaient vraiment signer, ils étaient décidés à signer. Et c'est ça qui est essentiel, c'est que là, j'explique que jamais Jacques Lafleur acceptera de signer un corps électoral gelé. Parce que Jacques Lafleur, je vais vous donner les raisons, elles sont essentielles. Jacques Lafleur, il a accepté la restriction du corps électoral, qui avait un sens à l'époque, qui n'en a plus aujourd'hui, qui avait un sens. Et il acceptait, mais à condition qu'il ne soit pas gelé. Parce que sinon, ça veut dire toute la vie. Donc, ce n'est pas possible. On est sur la République française, quand même. Le temps de consulter l'ensemble des Calédoniens. Voilà. Donc, c'est ça. Et pourquoi il jette le document sur la table? Parce que l'après-midi, il l'a traficoté, Krisnart, comme d'habitude. Et ce n'était plus glissant, c'était gelé. Voilà. Et donc, le lendemain, à 5h du matin, j'appelle Krisnart en disant que ce n'est pas bien de faire ça. Je lui dis, il ne faut pas nous prendre pour des cons. Voilà. Et il faut rectifier cet article, parce que sinon, ça ne marchera jamais. Et il me dit, oui, mais les indépendantistes. Alors, c'est comme ça que je réussis à voir à Paul Néroutine en fin de matinée, en début d'après-midi même, pour lui dire « Paul, je sais comme moi que tu es pour la signature de ce document, il faut changer ça parce que sinon ça ne marchera jamais. » Voilà, il faut changer. Et Paul Néroutine l'accepte et il est rerédigé, comme ça. Voilà. C'est pour ça que le soir suivant, on signe. Et la preuve que j'ai de ça, c'est que Paul Néroutine, ce que je vous décris, il l'a écrit dans son livre. Alors quand Croix Kwame Tang explique que l'avant-dernier jour, Jacques Lafleur dit « Ah ben oui, pour un corps électoral gelé », c'est ça qu'il vous a expliqué. Et que d'ailleurs, ils sont très étonnés, et que d'ailleurs, ils se regardent avec Paul Néroutine et puis ils disent « Merci à Jacques Lafleur, mais de qui il se moque ?» Enfin, c'est pas possible, voilà, c'est pas possible.
Et c'est comme ça qu'on est arrivé à un corps électoral glissant sur 10 ans dans l'accord de Nouméa.
Alors, il s'était fait avoir, Chris Nart, il était fou furieux. Donc dès qu'il rentre à Paris, il fonce voir le président du Conseil constitutionnel. Pierre Fougier pourrait raconter la scène mieux que moi. Pierre Mazeaud, qui était à RPR d'époque, il envoie foutre, etc. Mais il n'a cessé. Pour introduire un dispositif constitutionnel en 1999 lors d'une révision constitutionnelle qui n'a pas eu lieu en finale. Donc voilà,
tout ça. Et qui s'est conclu en 2007.
Mais la vérité, c'est celle-là. Voilà. Donc il ne faut pas nous raconter l'histoire. Jamais il a été question de rendre un corps électoral gelé. Jamais. Voilà. Et parce que ce serait contre. Quand on y regarde bien, on analyse. Il faut pouvoir analyser l'accord de Nouméa. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui qui peuvent le faire, malheureusement. Et pas même ceux de l'État. Ils n'ont pas dans le coup. C'est un non-sens par rapport à l'accord de Nouméa. C'est un non-sens, voilà.
Alors, c'est intéressant de parler du corps électoral parce que, justement, c'est une question qui est toujours à l'ordre du jour. Le ministre avait fixé deux thèmes de discussion lors des discussions bilatérales qui ont eu lieu à Paris. Cette fois-ci, il y a trois thèmes de discussion pour le voyage qu'il commence à partir de demain. Il veut parler de la question d'autodétermination, de la question d'émancipation, on y reviendra. Mais le premier thème, c'est le dégel du corps électoral. Et si on a bien compris, le ministre va faire des propositions et il devrait proposer d'ouvrir le corps électoral avec un corps électoral glissant sur 7 ans. Est-ce que ce genre de proposition vous intéresse et est-ce que c'est conforme à ce que vous aviez
Le corps électoral glissant, mais c'est-à-dire où on empêche les gens... Il faut qu'ils arrivent en Calédonie et qu'au bout de 7 ans, ils puissent voter. Ça, c'est jamais. Jamais, c'est non. Je explique pourquoi. Parce que si l'État fait ça, si le ministre fait ça, ça veut dire qu'il renie l'accord de Nouméa. Ça veut dire qu'il revienne sur l'accord de Nouméa. Ça veut dire qu'il ne respecte pas l'accord de Nouméa. Et ça, c'est pas possible. Enfin, moi, je n'accepterai jamais. Alors là, c'est jamais. Hein. C'est jamais. Je peux le dire très, très clairement aux Calédoniens. Alors, pourquoi? Parce que c'est quoi le sens de la restriction du corps électoral? Et pourquoi on l'a accepté à l'époque? Il faut le redire, puisque les uns et les autres ne comprennent pas. Même nos élus qui viennent chez vous, hein, ils ne comprennent pas le sens profond. Pourquoi on a accepté cette restriction du corps électoral? Et c'est tout le sens de nos accords. Pourquoi? Parce qu'en 88, l'accord de Matignon. Et au bout, il y a un référendum. Donc les indépendantistes disent « Ah, mais oui, mais ils vont tricher parce qu'ils vont faire venir des gens de métropole. Ça va fausser le résultat. » Comme si tous ceux qui venaient de métropole votaient tous dans notre sens. Hein, ça, c'est pas sûr. Hein, vous savez, quand ils arrivent au début, notamment. Ouais. Bon, enfin... Il y a cet a priori. Ils vont voter, c'est des Français, ils vont voter pour la France. Voilà. Alors, c'est comme ça qu'on accepte la restriction. OK, il faut que la règle du jeu soit claire. Pourquoi? Parce que dans l'esprit, il faut que le référendum il soit incontestable, incontesté. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il y a la première restriction du corps électoral. C'est comme ça. C'est ça l'esprit. Et puis donc, au bout du compte, le référendum, il n'a pas lieu parce que c'était trop tôt. Jacques Lafleur propose, enfin, vous en souvenez bien,
un accord,
tout le monde dit non, puis finalement, tout le monde part y venir, etc. Qu'est-ce qu'on fait de fondamental? Qu'est-ce qu'on fait de fondamental en 98? D'abord, on a une grande discussion avec les indépendantistes pour dire, on réintègre tout le monde. C'est-à-dire, ceux qui sont arrivés après 88, qui n'avaient pas le droit de voter, on les réintègre. Parce que c'est la démocratie, c'est comme la France ici, enfin quoi. Et donc, on arrive à les réintégrer. Et ça, il ne la raconte jamais, les indépendantistes, ils sont bien obligés de l'accepter, voilà. Bon, mais ensuite, pour l'accord de Nouméa, ce qui était essentiel pour Jacques Lafleur, pour nous tous, c'est quoi? C'est qu'au bout du compte, il y a un vote incontestable, incontesté, reconnu par la communauté internationale, pour qu'on se débarrasse de ce problème, de savoir si on était indépendant ou pas, si on restait dans la France ou pas, de se débarrasser de cette affaire, voilà. Et il fallait tout faire pour ça. Et je l'ai dit plusieurs fois ici, c'est pour ça qu'on a accepté beaucoup de choses. Mais sur le corps électoral, on accepte cette restriction pour la même raison que je viens d'expliquer. Pour pas que les indépendantistes disent « Ah ben oui, vous avez triché, vous avez permis aux gens de métropole de venir voter, ils ont voté avec vous. » Voilà. C'est pour ça. Mais aujourd'hui que c'est fini l'accord de Nouméa, on a voté trois fois, c'est fini, c'est la France. Mais pourquoi parler de corps électoral? C'est un non-sens. Il y a plus besoin de restreindre le corps électoral, parce que si on restreint le corps électoral aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on va recommencer à voter pour contre l'indépendance. Non, mais ça va.
Donc, c'est-à-dire que pour vous, il faut le dégeler complètement, il faut ouvrir le corps électoral comme en métropole. Au bout de 6 mois de présence en Calédonie, on peut voter.
Sinon, tous ceux qui savent, là, vous savez, je m'aperçois que le préfet Rémi Bastille, il sait tout, au Sarien, il sait tout. Hein. Bon, qui viennent m'expliquer à moi c'est quoi aujourd'hui de restreindre le corps électoral. Mais c'est quoi ? C'est quoi l'intérêt ? C'est quoi ? Sinon, il y a une autre raison. Si c'est pour donner une partie du pouvoir ou le pouvoir aux indépendantistes, alors on empêche que des gens viennent de métropole, et comme il y a déjà des restrictions très fortes, puisque, en vérité, quand les indépendantistes nous ont dit au troisième référendum qu'ils s'étaient approchés de la vérité, de la majorité, c'est faux. C'est qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui avaient le droit de voter, qui n'ont pas pu voter avec tout ce qu'ils ont fait. Enfin, on a dit ça plusieurs fois. Donc, grosso modo, pour moi, les indépendantistes représentent 42%. Donc, OK, on peut leur dire, vous voulez avoir une partie du pouvoir, OK. Eh bien, c'est pour ça qu'on a fait cette proposition déjà, mais ils ne la comprennent pas les uns les autres, ou ils ne veulent pas le comprendre. Et même l'État, d'ailleurs. C'est quoi ? C'est de dire, ben, on passe par les provinces. Vous avez deux provinces indépendantistes, vous garderez vos deux provinces, voilà, et on donne plus de pouvoir aux provinces, et notamment la compétence fiscale. Comme ça, chacun développera ses provinces à son gré, qui reste des collectivités de la République, bien entendu. Voilà. Et ça, c'est pas les histoires que j'entends, la partition, etc., ça n'a pas de sens. C'est la seule façon de s'en sortir, il n'y en a pas d'autre. Et c'est une manière juste, mais aujourd'hui, moi, je voudrais qu'on me trouve un argument pour dire qu'il faut encore restreindre le corps électoral.
Les loyalistes, et Nicolas Mézenf était notre invité hier à votre place, proposent 3 ans glissants. C'est pas non plus... Pourquoi ? C'est pour essayer de trouver de faire un compromis, d'obtenir l'accord des indépendantistes. Vous êtes contre. Même les 3 ans glissants, vous
estimez que c'est pas... Oui, parce que je connais trop les indépendantistes. Dès lors qu'on leur dira 3, ils verront 10. S'ils acceptaient 10 ou 7, alors ça sera 14. Mais évidemment, c'est leur jeu. Mais... Alors, moi, j'ai beaucoup d'estime pour Nicolas Mézenf. D'ailleurs, quand il est venu ici, il a été très bon, là, dernièrement, très très bon. Je l'ai d'ailleurs tout de suite félicité. Il n'empêche que, moi, j'étais aussi à Païta, à cette réunion. J'ai jamais entendu dire 3 ans, parce que sinon, je me serais levé dans la salle. Bon, jamais entendu dire ça. Bon, enfin, on peut toujours le dire. Mais la question, c'est pas ça. C'est qu'il faut bien comprendre que si aujourd'hui on vient faire une restriction des corps électoraux, c'est revenir sur l'accord de Nouméa. C'est essentiel. Il y a eu cette restriction pour la règle du jeu. La règle du jeu, elle a été claire, voilà. Le corps électoral a été fixé. On a voté, c'est la France. Donc il n'y a plus de raison. Parce qu'il y a une autre raison fondamentale. C'est que le président de la République, il l'a dit 6 fois. 6 fois, on ne peut pas dire mieux. Il n'a jamais changé d'avis. Hein. Il n'a jamais changé d'avis. Il a toujours dit la même chose 6 fois de suite. On a des occasions importantes. Et la dernière fois, la réunion de l'OTAN sur l'Ukraine. Hein. Bon, voilà, il a parlé de nous. Donc, c'est très clair. Le président de la République l'a bien dit. Il a tiré toutes les conséquences. C'est ses mots de la consultation des Calédoniens. Les Calédoniens ont choisi de rester dans la France. Et bien, donc, on revient... une collectivité de la République. Le statut transitoire terminé, de toute façon, il fallait bien en finir, puisqu'on a voté et c'est fini. Et donc, on revient à une collectivité une collectivité de la République. Bon, mais attendez, mais là-dessus, moi, je suis vigilant aussi, parce que je veux pas que, finalement, pour faire plaisir aux uns et aux autres, ça soit une espèce d'auberge espagnole où on y fout celui-là parce qu'il veut ça, l'autre parce qu'il veut ça, et qu'au bout du compte, on a un statut bâtard. Non. C'est une collectivité de la République, par exemple, comme la Polynésie. La Polynésie, c'est une collectivité de la République, ils ont des compétences comme nous, etc. Voilà, c'est très clair.
Alors, la Calédonie, c'est la France, mais il y a la question du droit à l'autodétermination, qui demeure, qui est inscrit dans la Constitution, et qui ressurgit à l'occasion de ces discussions sur l'avenir. Là aussi, il y a eu des propositions, bon, Gérald Darmanin l'a dit à New York devant l'ONU, l'État va proposer une à deux, qu'on repose la question de l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie dans une à deux générations. Ça veut dire que c'est pas fini, qu'il y a toujours cette épée de Damoclès de l'indépendance au-dessus de la tête des Calédoniens.
Ça, Sonia Baquès, il y a belle lurette qui avait fait une très bonne proposition là-dessus. Un système un peu comme au Québec, où il y a de temps à autre, effectivement, il y a une formule pour reposer la question aux Calédoniens. Alors, après, Mézenf, il a raison là-dessus. Hein. Il ne s'agit pas de nous faire le coup tous les 5 ans, tous les 10 ans, etc. Non, il faut respirer. On a besoin de respirer. Alors, 2 générations, ils l'ont dit, les indépendantistes avaient 50 ans. Mais c'est très bien, voilà, dans 50 ans. Bon, voilà. Je ne dis pas que je vais laisser ça à mes petits-enfants, mais enfin, bon, voilà. Non, mais c'est pas le souci. Elisabeth, je me permets de vous dire que, pour moi, l'urgence des urgences, c'est pas le corps électoral, c'est pas le ceci, c'est pas le cela. L'urgence, c'est de réviser la Constitution pour ce que l'on a réussi à gagner au bout de 30 ans, c'est-à-dire que la Calédonie reste dans la France, qu'on revienne bien dans la Constitution française, comme une autre collectivité de la République. C'est ça qui est essentiel, c'est ça. Voilà.
Alors le troisième thème qu'a prévu Gérald Darmanin lors de cette visite, c'est de parler de la question de l'émancipation. En fait, ça recouvre le partage des compétences, les liens avec la France. Et ça, vous êtes prêt à en parler ? Vous avez des propositions ? Vous attendez des propositions de l'État ? Ou c'est un thème qui ne vous paraît pas... qui vous passionne pas.
Mais enfin, on peut toujours en parler, mais pour moi, l'urgence, c'est pas ça. Vous savez, moi, je vais me permettre de donner un conseil au ministre, qui parle jamais de restriction du corps électoral, pourquoi ? Qu'il arrête, pourquoi ? Parce que sinon, ça veut dire qu'il sera le premier à revenir sur l'accord de Nouméa, sur l'esprit de l'accord de Nouméa, sur les 20 dernières années. Parce que si on remet le corps électoral en place, ça veut dire que tout ce qu'on a fait depuis 20 ans, c'est foutu à la mer. Et moi, je voudrais bien avoir un débat avec lui s'il le faut, ou bien lui expliquer, voilà. Parce que le problème aujourd'hui, je vois bien le problème, c'est que si vous n'avez pas vécu l'accord de Nouméa, tout ça, vous ne savez pas. Le préfet Rémi Bastide, je ne m'en prends pas à lui, mais vous savez, les préfets, ils n'aiment pas qu'on sache mieux qu'eux. Ben oui, ben moi, je suis désolé, l'accord de Nouméa, je ne connais personne, parce que je l'ai vécu, je l'ai discuté pendant des lustres, voilà.
Ah, justement, lors de cette visite ministérielle, il est prévu quand même l'examen de deux documents, l'audit de décolonisation et le bilan de l'accord de Nouméa. Vous attendez quelque chose de ces documents
Ben écoutez, on peut toujours faire tous les bilans de la création. Simplement, sur le bilan de l'accord de Nouméa, j'en reviens pas, parce que moi, personne ne m'a rien demandé. S'il y en a un qui a vécu l'accord de Nouméa, c'est quand même moi. C'est moi qui ai fait le plus grand temps jusqu'à présent au gouvernement, j'ai fait quasiment 6 ans, et c'est moi qui ai transféré toutes les compétences, toutes. Et Dieu sait si c'était un boulot, et Dieu sait si ça a été compliqué, etc. On ne m'interroge pas, mais je vous dis, le problème c'est que le préfet, il n'aime pas quand on sait mieux que lui.
Bah, c'est-à-dire oui, que le cabinet d'audit qui a préparé cet accord ne nous a pas entendu, ne nous a pas sollicité.
Alors après, je dis des vérités, ça dérange aussi, évidemment. Bah oui, puis on ne peut pas me contredire, parce que je sais ce que je raconte, c'est argumenté, voilà.
Et bon. Vous ne serez pas non plus au rendu de l'accord de ce bilan qui doit être fait au commissariat
Non, mais sur la décolonisation... Ah ben, ils ne m'ont pas invité, mais ils ne m'invitent jamais. Vous savez, moi, je connaissais bien le commissaire actuel, parce qu'on a travaillé ensemble, j'ai toujours une très bonne relation avec lui, j'ai une grande estime pour lui. Mais depuis qu'il est ici, il ne me connaît plus, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que, voilà, je dis des choses qui me déplaisent, j'en sais rien, enfin bon. Mais ce n'est pas grave. Tout ça, ce n'est pas grave. Mais sur la décolonisation, parce que là encore, elle est bien bonne. Hein, elle est bien bonne, l'histoire de la décolonisation. Parce que d'abord, votre historien là, qui vient... dans votre club, il l'a expliqué déjà à plusieurs reprises. La décolonisation s'est terminée depuis 1946.
Luc Sainte-Metz. Hein ? Vous parlez de Luc Sainte-Metz.
Ben oui, notre ami Luc, qui est un excellent historien, Steve, il a bien dit les choses, il a bien raconté. Il faut écouter les historiens. En 1946, De Gaulle, il donne le droit de vote au Canada, qu'il n'avait pas, effectivement. Et puis ensuite, ben, à partir de 1951, il commence à prendre le pouvoir. Bon. Et puis ils ont le pouvoir pendant un certain nombre d'années, Lucé. Et d'ailleurs, c'est quand même bien Lucé, parce que le général de Gaulle, il est très honnête avec eux, il leur dit, vous allez vous déterminer à l'Assemblée territoriale, voilà, représentative de l'ensemble des Calédoniens, puisque maintenant, vous y êtes tous. Donc vous allez dire si vous voulez être indépendant, vous allez dire si vous voulez rester dans la France, en tant qu'autonome, ou si vous voulez être un département. Ils ont tous, à l'Assemblée, tous voté pour ça. Mais qui avait la grande majorité ? Ben Lucé. Lucé voulait rester Tom. Jamais parlé d'indépendance. Donc, ça veut bien dire que la décolonisation, c'est fini. Mais quand les indépendantistes savent plus rien... Puis en plus, qui a fait ça à l'époque ? Le grand-père de Ouamitan. Le grand-père de Ouamitan. Moi, j'avais du respect pour... Je l'ai bien connu quand j'étais étudiant, parce qu'il était proche de tout le monde. Hein. Le père Pidgeot, comment on l'appelait, le père Pidgeot. Bon, voilà, c'est son grand-père. Alors, il renie là encore l'histoire, parce que ça les arrange pas. Mais n'empêche que c'était ça, la vérité. Je me souviens de ses discours, j'en ai fait un livre d'ailleurs, hein, au Congrès, où Lucé parlait de la mère patrie, c'est beau comme expression, nourricière, c'est dans leur discours, voilà. Bon. Alors, quand ils n'ont plus rien à dire, ils nous font le coup de la décolonisation. C'est pour ça, parce qu'aujourd'hui, ils jouent encore sur les mots. Dans l'accord de Nouméa, effectivement, c'est un accord de décolonisation, mais on en a largement discuté de ça, on en a accepté. Pourquoi ? C'est de dire, vous n'arrivez pas à dire que ça y est, on est décolonisé ici, vous auriez déjà dû le dire dans les années 60, vous n'arrivez pas à le dire. Enfin, si, vous l'avez dit dans les années 60, mais tous les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont pas vécu ça, donc ils nous ressortent. Donc, on va en finir... On va finir pour toujours avec l'accord de Nouméa. Donc l'accord de Nouméa, c'est un accord de décolonisation. Une fois qu'on a terminé ça, eh ben, vous êtes bien d'accord, hein, vous êtes bien d'accord, c'est la colonisation, il ne faudra plus nous en parler, ça sera fini. Ben oui, mais c'est ça. C'est pour ça qu'on a écrit accord de décolonisation. Il n'y a plus de décolonisation. Alors, on peut toujours faire le bilan aujourd'hui. Voilà. Mais il faut arrêter de parler de ça.
On fait un audit.
Oui, l'audit du bilan.
En conclusion, Harold Martin, vous attendez quelque chose de la visite de Gérald Darmanin, de passer ses messages peut-être éventuellement?
Oui, mais j'ai un autre message à donner au ministre, si je peux me permettre. Parce que je trouve que le ministre, il a eu une bonne démarche qu'à présent, il fallait bien tendre la main, discuter, prendre le temps de discuter. Il a fait les voyages ici plusieurs fois, etc. Bon, après, il a autour de lui des collaborateurs à Paris, ici, il faut qu'ils se rendent bien compte des choses. Je vous dis, l'accord de Nouméa, il passe à côté beaucoup de notions fortes. Mais je voudrais qu'il retienne une chose, c'est que si il commence à vouloir restreindre le corps électoral, il portera la responsabilité d'avoir foutu l'accord de Nouméa en l'air. Ça, c'est premièrement. Et je n'oublierai jamais ce que je viens de dire, et je vais le répéter, je le répéterai partout, et il y aura des conséquences à ça, si jamais il touche à ça. Bon. Alors après, qu'on le reste un an, deux ans, bon, ok. Mais fondamentalement, vous avez 17 ans, moi j'en sais rien s'il a dit ça, peut-être c'est vous savez, mettre l'appât. C'est peut-être l'appât pour amorcer la discussion. On peut, peut-être, j'en sais rien, mais enfin bon, pas acceptable une seule minute. Pas acceptable. Sinon, c'est pas la peine d'avoir fait la corde. Non, mais si on recommence tout, s'il faut qu'on refasse tous les 30 ans, alors qu'on a porté, subi, etc., on a donné beaucoup de nous-mêmes et de nos sous, etc., pendant 30 ans, non, voilà. Mais je donne un deuxième message. Les indépendantistes, aujourd'hui, ils renient leur signature. Ils savent très bien, ou à mi-temps, quand il vient chez vous, il sait très bien ce qu'il a signé. Il sait très bien qu'au bout du compte, eh bien, il y a un vote. Alors, on devait avoir voté une fois en 2018, et puis ils pouvaient demander à voter, à sortir de l'accord de Nouméa avant. Dès 2014, il y a la possibilité, ils ne l'ont jamais fait. Donc, du coup, le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, qui ne voulait jamais prendre la moindre responsabilité, il a trouvé la bonne sauce hein, pour nous mettre le deuxième et le troisième qui aurait dû être fait avant. Sans base juridique, sans rien, je l'ai dit 50 fois. OK. Mais en fait, tout ça, c'est fait. Voilà. Donc, c'est très clair. Les choses, elles sont très claires. Elles ont le mérite d'être très claires. Et donc, j'incite les uns les autres à aller voir les travaux parlementaires. Ils vont bien retrouver, là, tout ce que je raconte dans les travaux parlementaires. Bon. Donc, c'est fini. Donc, un, c'est le retour de la République. Si les indépendantistes, qui ne cherchent qu'à gagner du temps pour ne pas dire la vérité, s'ils continuent dans ce sens-là, on va bien voir la visite. S'ils continuent dans ce sens, eh ben, y a pas besoin d'accord. Il n'y a pas besoin d'accord. Pourquoi ? Parce que l'urgence, c'est de réformer la Constitution. Voilà. Et puis, je rappelle qu'aujourd'hui, c'est la loi. C'est la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État doit, c'est pas s'il veut, c'est une obligation de réformer la loi pour respecter le vote des Calédoniens. Ou alors, ça veut dire qu'ils ne veulent pas respecter le vote des Calédoniens. Je ne comprendrai pas. Et d'ailleurs, je ne crois pas à ça, parce que le président de la République, il a été toujours très clair, et le ministre aussi. Mais moi, je dis une chose, et j'en terminerai là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, quand on analyse tout ça, est-ce que nous, non-indépendantistes, on va aller re-signer un accord avec les indépendantistes? Pourquoi? Je pose la question au ministre. Le ministre, il signe un accord avec un individu. Au bout du compte, l'individu ne respecte rien de ce qu'il a signé. Il va re-signer avec lui, le ministre? Mais ça veut dire quoi? Ça voudrait dire qu'il est idiot. Ben non. Si vous avez signé avec quelqu'un qui a trahi les engagements qu'il a pris, il n'y a aucune raison d'aller re-signer avec lui, mais aucune. Parce que sinon, ça veut dire quoi? On va aller re-signer un truc, on va se faire avoir encore. Nous, on a été de bonne foi pendant 30 ans. On a fait le boulot, on a fait tout ça. Et les indépendantistes ont toujours dit, l'accord de Nouméa, rien que l'accord de Nouméa. Eh ben, allons-y, l'accord de Nouméa, rien que l'accord de Nouméa. Commencez à respecter votre signature. S'ils ne respectent pas, moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on ait signé un accord avec eux. Pourquoi on va se faire une deuxième fois? Ça va.
Ça veut dire que c'est la loi de la majorité qui s'impose. C'est ce que disait Pierre Frogier à votre place il y a quelques jours. La loi de la majorité doit s'imposer si les indépendantistes.
Évidemment, il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Voilà. Alors, oui. Oui, allez, pardon, allez-y.
Non, bah encore un mot pour conclure dans l'actualité politique. Bah, justement, c'est la préparation des sénatoriales également, qui auront lieu le 24 septembre. La dernière fois que vous étiez venu dans nos studios, vous aviez apporté votre soutien, justement, à Pierre Frogier. Depuis, Georges Naturel a fait acte de candidature.
Bien sûr.
Ça vous a étonné?
Alors, j'ai dit, la réforme constitutionnelle, elle est obligatoire. Faut-il avoir les 3/5 au Congrès de Versailles? Donc, réélire Pierre Frogier au Sénat, c'est indispensable pour avoir les LR. Et il a le poids sur tous les LR du Sénat, et puis même les centristes d'ailleurs, et puis même quelques socialistes, voilà. Donc il a cette capacité. Voilà. Alors, je crois que Georges Naturel est un ingénieur météo, donc il doit savoir compter. Donc quand il passe à la télévision pour nous dire qu'il n'y a aucun risque, alors ou il ment ou il ne sait plus compter. Parce que c'est plus qu'un risque, pourquoi? C'est très simple, c'est mathématique, on connaît le corps électoral. Nous on a 300 voix. Et on a 300 voix. Les indépendantistes, ils en ont 257. 257. Si on se divise, ils peuvent passer au premier tour. Est-ce que le maire de Dabé, avec ses stratèges, il a évalué ça. C'est facile quand il dit, je me présente, puis le cas échéant, je me retire au deuxième tour. Alors, entre nous, si déjà ils pensent ça, c'est pas la peine d'aller aux élections. Mais s'il y va, le risque, c'est même plus un risque, c'est que si on divise, on est 300. Si on divise ça, même sur une petite part du gâteau, eh bien, 257, ils sont à 50 voix de nous, mais moins de 50 voix, à 40 voix de nous, 43 voix de nous, mais on va se faire avoir. Mais donc, il faut que les individus reviennent sur Terre. Il faut qu'ils reviennent sur Terre, enfin, c'est pas possible. Ils prendraient une grave responsabilité devant l'histoire de ce pays s'ils faisaient, dans un moment comme aujourd'hui, de mettre un indépendantiste au Sénat, mais ça serait la pire des choses. Ouais, non, c'est pas acceptable, ouais.
Harold Martin, signataire de l'accord de Nouméa, merci d'avoir accepté cette invitation ce midi.
Merci.
Il est midi sur Radio Rythme Bleu, la suite du journal c'est dans un instant après une première pause.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Ce dimanche 4 juin, c'est la fête des mères. Pensez à réserver votre table dans votre restaurant Le Fun au 28 67 08. Retrouvez les suggestions spéciales fête des mères sur la page Facebook Le Fun.
Sauvant Carrelage, c'est le spécialiste des revêtements de sol et murs pour tous vos projets de construction. C'est aussi des solutions de revêtement pour vos espaces extérieurs. Sauvant Carrelage à Ducos Factory, c'est au 27 46 14 ou rendez-vous sur sauvantcarrelage.com.
Bonne fête maman.
Waouh, t'as vu? Le centre commercial Kenwin fête les mamans le dimanche 4 juin de 8h à 12h30.
Ah ouais?
Mais oui, c'est super. J'y vais chaque année, il y a plein d'animations spéciales pour les mamans et c'est 100% gratuit.
Gratuit?
Oui oui, 100% girly, 100% gratuit. Mesdames, rendez-vous le 4 juin au centre commercial Kenwin de 8h à 12h30. Info Facebook.
Là où je t'emmènerai, groupe Ambulance Alizé ARS. Vous habitez Nouméa, Grand Nouméa ou Labrousse, vous êtes scolaire de mobilité réduite, personne âgée. Pour tous vos déplacements, profitez d'un transport d'aide à la personne AgriCAFAT. Là où je t'emmènerai, groupe Ambulance Alizé ARS. Réservation au 73 53 47.
RRB 11h 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La suite de l'actualité en Calédonie et l'enquête sur l'accident de bus qui s'est produit en début de semaine dernière sur la Save Express se poursuit. Le chauffeur de bus Taneo a percuté un poids lourd, a été mis en examen pour homicides et blessures involontaires et défaut de maîtrise. Il est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de conduire tout type de véhicule à moteur. Un juge d'instruction a été nommé pour poursuivre l'enquête sur les circonstances de ce drame qui a fait un mort, trois blessés graves et 21 blessés légers. Il a notamment la charge de l'expertise du bus et notamment des mouchards informatiques et des images vidéo. Des investigations qui devraient prendre plusieurs semaines, précise ce matin le parquet de Nouméa. La semaine internationale de la normalisation se tient à la CPS. Les représentants de 25 pays travaillent en atelier pour échanger sur les systèmes normatifs en matière de construction, de santé, d'éducation ou encore de lutte contre la cybercriminalité par exemple. Une semaine qui a débuté par la réunion du PISC qui est l'organe chargé de travailler à ces questions au niveau des plus petits pays et territoires du Pacifique. Et à partir de ce matin, il s'agit du congrès du PASC qui regroupe également les grands pays de la région. Vaimoa Mouliava, membre du gouvernement en charge du dossier.
C'est un honneur de recevoir autant d'experts. Tous ces pays, vous savez, il y a la Bolivie, la Russie, la Chine, le Canada, sans parler de nos voisins, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Autant d'experts qui travaillent sur la question de la normalisation, mais sur plusieurs secteurs stratégiques, hein, qui est la cybersécurité, le changement climatique, la construction. La normalisation, c'est un langage, hein, dès lors qu'on veut commercer, autant avoir les mêmes langages. La question que je pose aux experts de la région, c'est pouvons-nous travailler à une normalisation pacifique? C'est important qu'on ait une harmonisation, une homogénéisation de nos pratiques commerciales ou sur la médecine, y compris la mobilité des hommes, c'est-à-dire l'éducation, les diplômes. Nous sommes inscrits dans notre région. C'est une façon de nous inscrire dans notre région.
La semaine internationale de la normalisation se tiendra donc à la CPS jusqu'à vendredi, sujet sur lequel nous reviendrons d'ailleurs demain en détail dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. La toute nouvelle boutique solidaire du Secours catholique a ouvert ses portes ce matin à Nouméa, dans le nouveau bâtiment au pied de la cathédrale. Ce nouvel espace qui porte le nom du fondateur du Secours catholique, Jean Rodin, propose à la vente toutes sortes d'objets de bonne qualité. Une véritable brocante où l'on trouve à la fois des meubles, des bibelots, de la vaisselle, des objets de collection et bien sûr des vêtements. Après des mois de travaux et de collecte, le président du Secours catholique Jean-Yves Lemenant était très heureux ce matin.
Tout ce qui est acheté ici n'est fait que pour générer des finances qui vont être distribuées aux personnes dans le besoin. C'est un maillon de la chaîne. On a toujours notre espace à la Vallée du Tir, on a un espace à Plume, à Conné. Voilà, on est un petit peu à Marais, on est un petit peu sur tout le territoire. Et là, c'est le projet d'une équipe aussi, une nouvelle équipe qui a voulu donner une certaine coloration à cette boutique. C'est aussi très symbolique puisque c'est la renaissance du lieu suite à l'incendie de 2017 où le doc du Secours catholique avait brûlé. Et donc, c'est une renaissance en même temps.
Une boutique qui a vu défiler dès ce matin de très nombreux visiteurs. Pas étonnant pour Jean-Yves Lemenant, car les temps sont difficiles pour tout le monde.
Ça, on le ressent très fortement depuis du linge vendu parfois au kilo au siège de la Vallée du Tir. On a des institutions aussi qui nous aident moins que par le passé parce qu'elles-mêmes sont confrontées à des problèmes de trésorerie. On ne leur en veut pas, on fait comme on veut. Mais là, on compte sur la solidarité pour offrir au meilleur prix finalement des objets de toute nature.
La boutique du Secours catholique est donc ouverte depuis ce matin. Elle est située rue Frédéric-sur-Lot, au pied de la cathédrale de Nouméa. Et puis aujourd'hui, 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac et la Ligue contre le cancer s'est installée à cette occasion dans le hall du Medipôle, Frédéric Joncheret.
Une présence pour sensibiliser et informer le public sur les méfaits de cette addiction, mais aussi sur les outils qui peuvent aider à arrêter de fumer. Parmi ces solutions qui peuvent vous accompagner dans votre démarche, l'acupuncture, l'hypnose, les patchs ou encore le dispositif déclic de l'Agence sanitaire et sociale. Mais pour Jean-Maurice Sautirio, le président de la Ligue contre le cancer, il y en a une autre primordiale pour atteindre son objectif.
Pour moi, c'est la première. Je m'arrête, tout simplement. De prendre conscience, de dire, je suis capable de m'arrêter. Je ne suis pas une victime du tabac, mais je suis quelqu'un qui a envie de m'opposer à ça. Mais seul, si on arrive déjà vers ce côté mental en disant, c'est pas toi qui me commande, c'est moi qui décide. Je fais ce que je veux de ma vie, mais je le veux le faire autrement. La question souvent, ouais, mais je peux pas m'arrêter parce que... ouais, d'accord. C'est écrit où ? Il n'y a pas d'écrit qui dit que je ne peux pas m'arrêter parce que il n'y a pas ça. Donc il y a une histoire de volonté aussi perso. Et cette volonté-là, ce n'est pas formalisé dans son esprit, dans sa façon de vivre, ça ne pourra pas marcher. Alors c'est vrai que le lobby du tabac, ils ont réussi leur coup à mettre en place quelque chose qui est pratiquement dans la vie courante. On décante aujourd'hui, le tabac, c'est quand même lié à un gouvernement. On ne peut pas s'en défaire. Enfin, on pourrait s'en défaire. Des fois, comme je dis, il n'y en a pas d'usine de tabac en Calédonie. On n'a pas donc de salariés du tabac, en général. Donc on n'est pas obligé d'en acheter, si on le voulait. Mais après, comme on dit, le choix n'appartient qu'à.
Et aux côtés de la Ligue contre le cancer, se trouve également dans le hall du Medipôle, en cette journée mondiale sans tabac, le laboratoire Roche, qui alerte également le public sur les dangers du tabac, l'addiction à la nicotine et donc sur l'importance de ne pas commencer. Isabelle Grandjon, attachée scientifique hospitalière du laboratoire sur la zone Pacifique.
L'addiction à la nicotine qui est terrible et puis toute la toxicité que peut entraîner cette molécule et toutes les émanations de la combustion d'une cigarette en fait et qui peuvent avoir des impacts vraiment différents tant au niveau de la bouche que de l'œsophage et puis de la trachée et puis ensuite jusqu'au poumon. Il faut savoir que le cancer du poumon en Nouvelle-Calédonie est le deuxième cancer sur le territoire. En tant que laboratoire, nous, on est simplement dans la partie, on va dire, malheureusement finale, hein, dans le traitement des tumeurs, hein, donc les immunothérapies notamment, les thérapies ciblées. Tout est une question de moment de dépistage, très souvent. Plus une tumeur va être détectée tôt, plus on va pouvoir potentiellement la guérir. Le traitement de départ ou définitif d'un cancer, ça va être la chirurgie. Pouvoir retirer la tumeur, et là, pour pouvoir la retirer, surtout en pneumologie, tout dépend de son emplacement, ce qui fait que malheureusement souvent même une petite tumeur ne peut pas être retirée dans un cancer du poumon parce qu'elle est mal positionnée. Et puis ensuite derrière bien sûr les traitements. C'est vrai que l'arrivée de l'immunothérapie a révolutionné la prise en charge notamment du cancer du poumon. On a des espérances de vie qui ont été vraiment augmentées, des qualités de vie vraiment améliorées chez les patients qui ne sont pas curables notamment.
D'après l'Agence sanitaire et sociale, plus de la moitié des Calédoniens fument et les trois quarts d'entre eux aimeraient arrêter. Pour vous y aider, n'hésitez pas à visiter le site internet de l'ASSNC ou si vous le pouvez, vous rendre dans le hall du Medipôle jusqu'à 14h pour rencontrer les bénévoles de la Ligue contre le cancer.
Midi 8, une nouvelle pause avant de voir dans un instant ce qui fait l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Monsieur Speedy, je suis désespérée. Mes pneus sont complètement démodés.
Non, ils sont usés, mais je sais où en trouver des neufs.
Ah bon, et où ça ?
Derrière moi.
Oh, vous en avez moins de 1000 ?
On a la plupart des modèles du marché. Venez, on va vous trouver ce qu'il vous faut.
Chic, de lèche-vitrine de pneus.
Chez Speedy, bénéficiez de 20% de remise sur toutes nos marques de pneus jusqu'au 15 juillet. Et pour toute commande en ligne, bénéficiez de 5% de remise supplémentaire.
Va donc chez Speedy.
On vous attend chez Confo.
Chez Conforama Kenwin, jusqu'au 18 juin, le changement, ça se cuisine. Moins 25% sur les cuisines, des super promos sur l'encastrable, le lavage, le froid et moins 25% sur les bureaux, rangements et chaises de bureau. Alors tous chez Conforama.
Chez Décorama, vous trouverez tous les matériaux de construction et finition du bâtiment pour réaliser vos projets. Décorama à Ducos Factory, c'est une équipe de professionnels pour vous conseiller dans vos choix. Plus d'infos au 27 45 40 ou sur decorama.nc.
La fête des mères dans vos boutiques Marlène Alma, Kenwin et Port Plaisance, les coffrets parfums, la maroquinerie, la lingerie, le textile. Marlène, le seul plaisir d'offrir pour toutes les mamans.
Radio Rythme Bleu, la première radio de Nouvelle-Calédonie.
L'actualité en métropole, Jean-François Baudin.
Et lors du Conseil des ministres, Emmanuel Macron a recadré, selon le terme consacré, sa première ministre. Elisabeth Borne avait qualifié ce week-end sur Radio J le Rassemblement national d'héritier de Pétain. Emmanuel Macron lui a signifié qu'il fallait attaquer le Rassemblement national par le concret et le réel et non pas par des mots des années 90. Alors qu'est-ce qui se joue derrière cette charge? Élément de réponse avec Arthur Delaborde pour Europe 1.
Le RN n'est qu'un prétexte. Il voulait lui mettre une cartouche publiquement, explique très crûment un conseiller d'Emmanuel Macron. À ses yeux, ce n'était donc pas un recadrage, mais plus une attaque personnelle contre la Première ministre. Alors pourquoi? C'est une manière de lui remettre la pression, alors que beaucoup la voient rester à Matignon à l'issue des 100 jours, analyse un ministre. Cette mise au point du président est bienvenue, juge en tout cas un autre participant au Conseil des ministres. La diabolisation est une vieille ficelle qui ne marche plus depuis longtemps. C'est même contre-productif, car ça permet aux élus RN de contre-attaquer en se victimisant, ajoute-t-il. L'entourage d'Elisabeth Borne explique qu'elle n'est pas affectée par ces propos d'Emmanuel Macron. Elle est d'ailleurs restée impassible au moment où il les a prononcés, puis elle a déjeuné comme à son habitude avec le président à l'issue du Conseil des ministres. Selon ses fidèles, sur Radio J, la chef du gouvernement n'a fait que dire spontanément ce qu'elle pense sur le RN dans un contexte particulier, puisqu'elle venait d'évoquer la déportation à Auschwitz de son père résistant et d'une partie de sa famille. Mais même si elle s'inquiète de la normalisation, comme le chef de l'État, Elisabeth Borne, pense que c'est en obtenant des résultats concrets pour les Français qu'on combat le parti de Marine Le Pen, précise un de ses conseillers.
Dans l'après-midi, la Première ministre a assisté à la séance de questions orales à l'Assemblée nationale. Elle est intervenue sur le projet de loi Liotte pour abroger la réforme des retraites, un texte qu'elle a qualifié de démagogique et voué à la censure du Conseil constitutionnel. Ce texte devrait tout de même être soumis au vote des députés le 8 juin. Les syndicats ont annoncé une nouvelle journée de manifestation pour le 6 juin. L'actualité à l'étranger est marquée par une attaque de drones sur le Kremlin. Plusieurs engins de ce type ont visé des quartiers résidentiels de la capitale russe. Mais la défense a parfaitement fonctionné, a réagi le président Vladimir Poutine, qui accuse l'Ukraine d'être à l'origine de cette attaque.
Le système de défense anti-aérienne de Moscou a fonctionné normalement, de manière satisfaisante, bien qu'il y ait encore des progrès à faire. Le régime de Kiev a fait un choix, tenter de terrifier la Russie et les citoyens russes en frappant les bâtiments résidentiels.
Vladimir Poutine accuse donc l'Ukraine d'être responsable de cette attaque de drones, mais l'implication de Kiev est incertaine, explique de son côté Xavier Tittelmans, spécialiste des questions militaires liées à l'aviation.
Par le passé, quand il y avait une attaque qui était évidemment de leur part, par exemple le raid des hélicoptères sur Belgorod, ils n'avaient rien dit. C'est-à-dire qu'ils avaient laissé dire, voilà, on ne sait pas. Par contre, quand ils disaient « c'est pas nous », a priori, ce n'était pas eux. Les attaques sur le Kremlin, ils ont dit « c'est pas nous ». Et là, c'est la même chose. Ce qui confirme que ce serait plutôt des partisans ukrainiens qui ont réussi à s'organiser pour conduire ces attaques.
Et précisons que les drones utilisés sont des drones civils transformés pour un usage militaire. Midi 13, une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, c'est l'actu sport avec Morgane Boucher.
RRB 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin. Domaine NZ, votre agence immobilière spécialisée dans l'investissement locatif en Nouvelle-Zélande, vous donne rendez-vous du 29 mai au 3 juin au Ramada Plaza de Nouméa. Participez à nos séances individuelles d'information et d'accompagnement dans votre projet immobilier. Réservez votre rendez-vous par email à info@domaine.co.nz ou par téléphone au 50 00 45. Plus d'infos sur Facebook Domaine NZ-FR.
Mesdames, la nouvelle collection Fête des Mères est arrivée chez Sun & City. À offrir ou se faire offrir, tout un choix de robes, chemises, mais aussi des tops et des pantalons pour être la plus belle. Sans oublier les chèques cadeaux, Sun & City à la galerie Port Plaisance et sur Facebook.
La publicité que vous venez d'entendre aurait pu être la vôtre. Avec, sur RRB, un effet assuré et un impact garanti. N'attendez plus, contactez le service publicité au 25 46 46. Merci aussi de votre soutien.
Pour la fête des mères, venez faire le plein d'idées cadeaux chez Home Depot. Du choix, de la qualité, il y en a pour tous les goûts. Décoration, vaisselle, meubles, bougies, faites plaisir à votre maman. Bon cadeau disponible sur demande, rejoignez-nous sur Facebook. Home Depot, ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 17h30.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
L'actualité sportive.
Avec Décathlon, suivez toute l'actualité sportive du jour. Toutes les infos et tous les résultats locaux, nationaux et internationaux.
Décathlon, le sport pour tous, tout pour le sport.
L'actu du tennis, c'est d'abord Roland-Garros avec le retour gagnant de Gaël Monfils. Le Français, longtemps blessé, s'est qualifié pour le deuxième tour du tournoi et s'est imposé en 5-7 face à l'Argentin Sébastien Bez. Morgan Boucher, pardon.
Gaël Monfils qui a connu des hauts et des bas dans cette partie. Il était notamment mené 4-0 dans le 5e set contre le 42e joueur mondial. Mais il a su renverser la tendance portée par le public du court Philippe Chatrille.
Je ne sais même pas quoi dire, poussé par le public. J'ai eu un nouveau souffle. La vérité, à un moment, à 3-0, je me suis dit, j'ai quand même pas gagné un match depuis que je suis papa, quoi. Et ma fille, elle est à Paris. Et je me suis dit, allez, je vais quand même en gagner un, quoi. Et du coup, je me suis un petit peu plus relâché. Je me suis mis à déconner un peu dans ma tête, à être un peu moins dans le match. Eh oui, un peu moins dans le match. Et prendre l'énergie du public, croire en moi. Mais honnêtement, j'ai pas de mots, j'arrive pas à parler, juste à vous dire merci, c'est fabuleux.
Gaël Monfils rencontrera au prochain tour le Danois Holger Rune. Autre qualification tricolore ce matin, celle d'Arthur Rinderknecht. Il a battu Richard Gasquet 3-7-1. C'est la première victoire de sa carrière à Roland-Garros. Après 4 participations, il affrontera au deuxième tour l'Américain Taylor Fritz, tête de série numéro 9 chez les dames. Diane Parry a créé l'exploit en battant l'Ukrainienne Anelina Kalinina, 26e joueuse mondiale, qui était finaliste à Rome il y a un peu plus d'une semaine. Diane Parry sera opposée au prochain tour à la jeune pépite russe de 16 ans, Mira Andreeva. Ça passe également pour Océane Dodin, qui s'est imposée dans un duel 100% français contre Yelena Yanisievich. Elle aura fort à faire au prochain tour contre la Tunisienne Onze Jabeur, tête de série numéro 7. On signalera en revanche les éliminations de Fiona Ferro, Clara Burel, Hugo Gaston, Giovanni Mpeci Pericard, Grégoire Barrère et Quentin Alice. Au total, 10 joueurs tricolores sont qualifiés pour le deuxième tour de Roland-Garros qui commence ce soir, 6 dans le tableau masculin et 4 chez les dames.
Et puis il y a eu une véritable première sensation la nuit dernière à Roland-Garros, c'est l'élimination dès le premier tour du numéro 2 mondial, Daniil Medvedev.
Oui, le Russe s'est incliné 3-7-2 contre un joueur brésilien issu des qualifications, récent vainqueur de son premier tournoi sur terre battue à Rome. Medvedev s'est fait surprendre par Thiago Seboss Wild, 172e joueur mondial. Le Brésilien de 23 ans disputait son premier match en Grand Chelem. Et du côté des autres têtes de série, on signalera les qualifications de Casper Ruud et Gassiatek.
Un mot de football, la Française Marie-Antoinette Katoto est forfait pour la Coupe du Monde féminine.
L'attaquante des Bleus ne sera pas du voyage en effet en Australie et en Nouvelle-Zélande. En juillet et août prochain, la joueuse du Paris Saint-Germain s'était blessée gravement à un genou l'année dernière. Et puis c'est un nouveau coup dur pour les Bleus, d'ores et déjà privés de Delphine Cascarino. Et alors que Khadidia Toudiani est très incertaine, ces trois joueuses étaient tout simplement titulaires en attaque lors de l'Euro l'an dernier.
Et puis on termine avec un mot de taekwondo. Les Françaises Althea Lorrain en moins de 73 kilos et Magda Viet-Hénin en moins de 67 kilos ont été sacrées championnes du monde à Bakou. Le dernier titre mondial pour l'équipe de France de taekwondo datait de 2013. Midi 18, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention.